Bien, alors pour l'enseignement, je rappelle qu'on a commencé le mois dernier un ouvrage de Ringu Rinpoche. Ringu Rinpoche est l'autorité spirituelle du centre Bodhicharya France, dont dépend le Chöling de Nancy. Et ce texte a été traduit en français par « en route vers l'éveil », c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en tibétain « lamrim », c'est-à-dire une voie progressive. Comment débuter dans la voie et comment la poursuivre, et selon les trois véhicules, hein, le petit véhicule, le Shravakayana, cette forme du bouddhisme qu'on retrouve en Thaïlande, au Cambodge, au Laos et Sri Lanka et Birmanie, dans le grand véhicule ensuite, qui s'appuie sur les sutras, les enseignements publics qu'a donné le Bouddha. Et cette forme du bouddhisme, on la rencontre en Chine, le zen japonais et le bouddhisme vietnamien. Et selon le véhicule, le Vajrayana, le véhicule du diamant, qui est plus représenté par le bouddhisme tibétain. Donc on est au tout début, hein, dans le Shravakayana, le petit véhicule. Il ne faut pas, je rappelle ça, il ne faut pas se dire que parce que nous sommes dans le Vajrayana, dans le bouddhisme tibétain, que les enseignements qu'on trouve dans le petit véhicule, enfin dans le Shravakayana, eh bien ça ne nous concerne pas. Hein. Ça, c'est une grosse erreur qu'on fait on va dire les Tibétains avec le temps, et que les Occidentaux ont tout de suite adopté, je trouve, dès l'arrivée du bouddhisme en Occident il y a une quarantaine d'années. Hein. Le bouddhisme tibétain, le Vajrayana, eh bien, s'appuie sur toutes les formes d'enseignement, aussi bien les sutras, les enseignements publics, le vinaya, les préceptes pour laïcs et pour les moines, donc l'éthique, la façon de vivre, l'abhidharma, tout l'aspect, on va dire, plus métaphysique du bouddhisme, mais également les tantras, qui sont les enseignements qui forment vraiment la spécificité du bouddhisme tibétain, du Vajrayana, et qu'on peut dire comme étant des enseignements initiatiques avec des guillemets, dans le sens où la transmission se fait par initiation. Voilà. Donc, on a commencé à voir l'enseignement, le fondement de l'enseignement du Bouddha, qu'on appelle les quatre nobles vérités. Cet enseignement, le Bouddha l'a donné tout de suite après son éveil, dans le parc des Gazelles, à Sarnath, à côté de Bénarès, aujourd'hui. Et ces quatre nobles vérités forment les fondements de la doctrine bouddhiste. Ensuite, pendant 40 années que le Bouddha a enseigné, eh bien, le Bouddha a développé plusieurs aspects, bien sûr, mais différents aspects de ces quatre nobles vérités. Cet enseignement, c'est une compilation d'enseignements que Ringu Rinpoche a donné en 1996, je crois, à Hambourg. Et je crois que c'est cet ouvrage-là qui actuellement est pas mal traduit, travaillé, médité, réfléchi aux États-Unis, dans tous les centres que Rinpoche possède aux États-Unis. Ces quatre nobles vérités, je les rappelle. La première est: nous rencontrons inévitablement dukkha. Et dukkha, c'est un terme sanskrit que l'on traduit en général par souffrance. Ça inclut évidemment toutes les souffrances physiques et morales que l'on peut rencontrer dans notre vie, mais ça a un sens plus large de contrariété, insatisfaction et frustration. Ça, c'est la première des quatre nobles vérités. Tous les êtres rencontrent dukkha. La deuxième noble vérité, mais quelle est la cause, l'origine de dukkha? Puisque l'objectif du dharma, c'est de se libérer de dukkha. Donc pour pouvoir s'en libérer, faut-il encore en connaître la cause? Parce que sinon, on appliquera des méthodes pour se libérer de dukkha qui ne nous libéreront pas, en tout cas de façon ultime, de dukkha. Donc, cette deuxième noble vérité que l'on va voir ce soir, c'est, à mon avis, la noble vérité la plus importante de ces quatre nobles vérités. La troisième noble vérité, eh bien, connaissant la cause, si l'on met fin à la cause, eh bien, on peut faire cessez dukkha, donc c'est la vérité de la cessation. Et on voit bien que cette vérité de la cessation découle de la précédente. Et la quatrième noble vérité, eh bien, c'est le chemin qui va conduire à cette cessation, ce qu'on appelle l'octuple sentier, puisque ce chemin se décline en 8 branches. Voilà. Et tous les pratiquants bouddhistes, qu'ils soient du Vajrayana, du Shravakayana ou du Mahayana, suivent ce même chemin. Ce qui nous diffère dans les différentes écoles, et ceux qui sont allés un peu en Asie, vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de différences en apparence entre le bouddhisme zen, le bouddhisme tibétain et le bouddhisme thaïlandais par exemple, mais ce ne sont que des différences qui se situent dans les méthodes que l'on va utiliser, c'est-à-dire dans l'application de l'octuple sentier, l'application de la quatrième noble vérité. Mais toutes ces méthodes visent à déraciner l'origine de dukkha, et donc on retrouve cette même motivation dans toutes les écoles bouddhistes, quels que soient les moyens que l'on utilise pour cette libération de la souffrance. Et quand cette libération est réalisée, eh bien c'est ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil, c'est-à-dire qu'on s'éveille, qu'on s'éveille à ce que sont, à la nature même de toute chose, à la fois l'individu et les phénomènes. L'éveil, bon, on aura l'occasion d'en revenir là-dessus, mais l'éveil, ce n'est pas quelque chose que l'on doit considérer comme une acquisition ou quelque chose qu'on doit accumuler ou acquérir, en tout cas. C'est plutôt quelque chose qui doit disparaître en nous, quoi. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'ignorance. Cette ignorance qui ne nous permet pas de voir, de comprendre, d'expérimenter la nature même et des phénomènes et de nous-mêmes. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle réaliser le non-soi de l'individu et le non-soi des phénomènes. Et ça, j'en parle dès la deuxième noble vérité, parce que cette ignorance, eh bien, c'est une des causes de dukkha. Donc cette ignorance est à l'origine de dukkha, et celle-ci va se manifester sous deux aspects principaux qui font partie de cette origine. C'est la production de karma, ce qu'on appelle le karma, la loi de causalité, et les facteurs perturbateurs. Tous ces poisons de l'esprit, la colère, la jalousie, l'orgueil, l'ignorance, l'avidité, l'attachement, l'indifférence, etc., qui s'élevant dans notre esprit, eh bien, font que notre esprit est dominé par ces facteurs perturbateurs et nous pousse à agir de façon, de telle ou telle façon, et si bien que ces actes-là, eh bien, entraînent une production de karma. Alors, le karma, et Rinpoche explique dans ce deuxième chapitre, hein, tout d'abord, Rinpoche dit que connaître la cause, c'est l'enseignement le plus important du Bouddha. Sa découverte est la plus significative. Il précise plus loin au sujet du karma. Aujourd'hui, presque tout le monde parle de karma. Pourtant, ce n'est pas si simple à comprendre et il existe beaucoup d'idées fausses à ce sujet. Le karma est à la fois cause et conséquence. Hein, donc c'est pourquoi j'utilise peu le terme karma, je préfère parler de la loi de causalité. Tout ce qui se produit, eh bien, a une cause. Et la cause est de même nature que ce qu'elle produit. Hein. Toute l'éthique bouddhiste va se baser sur cette compréhension de la loi de causalité. Il n'y a pas de notion de bien et de mal dans le bouddhisme que l'on peut définir de façon absolue. On va parler d'actes négatifs. C'est quand ces actes négatifs, avec la motivation avec laquelle on va accomplir ces actes, eh bien, sont cause de souffrance pour soi-même et pour autrui. Les actes positifs, c'est lorsque ces actes, eh bien, sont cause de bonheur et de bien-être pour soi et pour autrui. Alors, Rinpoche explique « Une cause identique engendre un résultat identique. Une graine douce donnera un fruit doux, une graine amère donnera un fruit amer. C'est la philosophie du karma. Pour appréhender le concept de karma, il nous faut comprendre le sens du terme interdépendance. Voilà, tout est lié, tout existe par interdépendance de multiples, on utilise toujours cette expression, de multiples causes et conditions. Et rien n'existe en soi-même. Alors cette notion d'interdépendance est extrêmement importante dans le bouddhisme, non seulement pour comprendre la loi de causalité, mais pour comprendre aussi la non-existence propre des phénomènes et de l'individu. Quand on parle de vacuité ou de vide dans le bouddhisme, il ne faut pas tomber dans cette notion nihiliste, dans cette vue nihiliste dans laquelle sont tombés pas mal d'occidentaux à la fin du 19e et début du 20e siècle, qui s'intéressaient peut-être à l'enseignement bouddhiste, mais qui ne l'ont jamais pratiqué, et qui considéraient ensuite cette voie comme étant une voie nihiliste quand ils ont entendu parler du vide. Quand on parle de vide ou de vacuité dans le bouddhisme, cela veut dire que tout existe par interdépendance de multiples facteurs et que rien n'existe en soi-même ou de façon intrinsèque. Donc, c'est vide, tout est vide d'existence propre. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc le vide n'est pas le nihilisme, n'est pas synonyme de néant. Ça, il faut que ce soit vraiment bien retenu, hein. Parce que si vous parlez que vous fréquentez un milieu bouddhiste ou que vous êtes bouddhiste pour ceux qui le sont devenus à des gens non bouddhistes, tout de suite ils vont vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est que le vide, quoi? Et il faut savoir leur répondre, hein, que ce n'est pas synonyme de néant, mais que cela veut dire vide d'existence propre. Voilà. Et si vous prenez... vous pouvez prendre n'importe quel objet, n'importe quel phénomène pour développer eh bien cette affirmation. Prenez l'exemple d'un arbre. Un arbre est vide d'existence propre. C'est-à-dire que si vous retirez tout ce qui constitue un arbre, vous ne trouvez absolument pas une molécule que vous pouvez nommer arbre. L'arbre désigne tout un ensemble de choses. Mais notre esprit ne perçoit pas l'existence de l'arbre de façon interdépendante. Notre esprit voit l'arbre, perçoit l'arbre comme étant une chose unique. Or, c'est quelque chose qui est constitué de branches, de feuilles, de troncs, de racines, et la terre qui la nourrit, l'air, l'eau qui l'en nourrit, etc. Et si vous retirez chacun de ces éléments, eh bien, il n'y a plus d'arbre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la réalité ultime. Il est vide d'existence propre. Mais la vérité, la réalité ultime est toujours accompagnée de la réalité relative, c'est-à-dire qu'il existe, non pas de façon propre, mais en interdépendance de multiples facteurs. Et cette réalité-là, elle est solide, hein. C'est-à-dire que si en voiture vous foncez dans un arbre en vous disant « Oh, bah, ma foi, tout est vide, la vacuité, l'arbre n'existe pas », certes, il n'existe pas de façon ultime, mais vous allez faire quand même l'expérience de son existence relative. Et ça risque de faire mal, quoi. Donc on ne peut pas tomber dans le nihilisme quand on comprend l'existence, la non-existence ultime. Mais on ne peut pas tomber non plus dans l'éternalisme en attribuant aux phénomènes comme aux individus une existence intrinsèque. Donc le bouddhisme est né... Le dharma est né de l'hindouisme, puisque le Bouddha a commencé sa recherche spirituelle dans l'hindouisme, mais le bouddhisme est né de la réfutation de cette existence propre à chaque individu que les hindouistes appellent Atman, et qu'ils définissent comme une entité autonome, unique et permanente, qui est l'équivalent de l'âme, je pense, dans le christianisme. Pour nous, ces voies sont éternalistes. Alors on ne tombe pas dans l'éternalisme, mais on ne tombe pas non plus dans le nihilisme. On tombe dans quoi? Dans la voie du milieu. Et c'est ça la voie du milieu. C'est que notre point de vue se situe au-delà de l'éternalisme et du nihilisme. Et la voie du milieu, ce n'est pas la voie de l'eau tiède, hein. C'est pas la voie, oui, moi je suis bouddhiste, je suis dans la voie du milieu, je médite un petit peu, je médite quand ça va bien, etc. C'est pas ça du tout. Hein. La voie du milieu, c'est eh bien être au-delà de l'éternalisme et du nihilisme. Bon. Là, on touche absolument le cœur du dharma. Hein. La réalisation, eh bien, c'est réaliser cette nature ultime et relative en même temps de toute chose, à la fois de l'individu et des phénomènes. Et nous sommes tellement formatés depuis, comme disent les textes, des temps sans commencement, que percevoir cette réalité de toute chose, eh bien, demande un cheminement qui peut être long, parce que même si nous le comprenons intellectuellement, nous ne le réalisons pas, nous ne le voyons pas, et c'est le fait de ne pas le réaliser, de ne pas le voir, qu'on appelle l'ignorance. Cette ignorance nous laisse penser, nous fait penser que, eh bien, nous existons en tant qu'entité unique, autonome et permanente, qu'on appelle l'ego, qu'on appelle le moi, le soi avec un petit s, le soi avec un grand s, peu importe. Mais à partir du moment où on conçoit cette entité, que l'on existe en tant qu'entité unique, autonome et permanente, eh bien, nous sommes, d'après le Dharma, dans l'ignorance. Et c'est cette ignorance qui est à l'origine de tous nos problèmes. Alors, cette ignorance, tant qu'on ne l'a pas déracinée, eh bien, on peut comprendre comment elle fonctionne, mais on connaît surtout les effets de cette ignorance, qui sont d'une part les facteurs perturbateurs et d'autre part le karma créé par des actes accomplis sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs. Et pour comprendre comment fonctionnent ces facteurs perturbateurs, eh bien, il faut entrer dans ce qu'on appelle la dualité, c'est-à-dire que nous nous percevons comme étant un sujet autonome, unique, permanent, hein, c'est moi. Eh bien, vous n'êtes pas moi, quoi. Vous êtes les autres. Et chaque individu se perçoit comme une entité, et ce qui n'est pas cette entité est perçu comme autre. Et là, il y a apparition de cette dualité sujet-objet. Ce sujet, cette ignorance, c'est une construction de l'esprit. C'est le fait de ne pas voir notre nature même de l'esprit. C'est donc une construction. Ce n'est pas quelque chose qui est. Mais c'est une construction. C'est pourquoi les textes parlent d'illusion. Et c'est pourquoi c'est déracinable. C'est pourquoi on peut déraciner cette illusion. Parce que c'est une construction. Ça ne correspond absolument pas à la réalité. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, eh bien, réaliser l'éveil, ce n'est pas acquérir quelque chose, mais c'est faire disparaître cette incompréhension ou cette ignorance. Et l'éveil, c'est voir. Mais c'est bien sûr, les choses sont comme ça. Jusque-là, je ne les voyais pas de cette façon-là. Je les percevais comme ayant une existence propre. Donc c'est quelque chose, l'éveil, c'est quelque chose qui disparaît. C'est cette illusion qui disparaît. Et lorsqu'on est sous cette emprise de l'ignorance, il y a automatiquement ce fonctionnement en mode duel. Et c'est dans cet espace entre le sujet et l'objet que les facteurs perturbateurs, eh bien, s'élèvent. Et il n'y a qu'à voir comment nous fonctionnons lorsque nous rencontrons ou lorsqu'on entre en contact avec un objet par l'intermédiaire de nos consciences. Hein, si vous prenez l'exemple de la conscience visuelle, dès que la conscience visuelle entre en contact avec un objet, eh bien, il y a une sensation qui apparaît. Si cette sensation est agréable, eh bien, immédiatement, c'est le désir que cette sensation perdure, voire se renouvelle si elle disparaît, et forcément elle va disparaître puisque tous les phénomènes sont impermanents. Si par contre cette sensation qui, grâce à ce contact, nous est déplaisante, eh bien c'est l'aversion qui va apparaître. Et puis il y a la sensation qui est neutre, ni agréable ni déplaisante, et qui fait naître eh bien, une attitude neutre et qu'on pourrait associer à l'indifférence. Mais ces facteurs perturbateurs, la colère, la jalousie, l'orgueil, le désir rattachement, l'indifférence. Bon, ça, c'est les cinq principaux, mais Bouddha en dénombrait 84 000. Alors, je ne sais pas si tout le monde a les 84 000, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup. C'est ce qui régit notre façon de réagir. C'est ce qui régit notre façon d'être avec le monde des phénomènes, notre relation avec autrui, avec toutes les situations, les circonstances que l'on rencontre. Eh bien, ça se passe toujours selon cette, comment, ce mode duel. J'agis parce que j'aime et je suis attaché à cela et je le veux, mais j'agis parce que je n'aime pas cela, donc je veux que cet objet disparaisse. Donc, dans les deux cas, il y a cette volition, cette volonté très forte. Hein. Et puis, je n'agis pas, eh bien parce que ça ne me touche pas. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle les trois poisons de l'esprit. Vous rajoutez la jalousie, l'orgueil, et là, vous avez la panoplie de notre mode de fonctionnement habituel qu'on appelle samsarique. Et c'est ce mode de fonctionnement, eh bien, qui est cause de dukkha. Ce mode de fonctionnement, nous avons toujours fonctionné comme ça. Alors ça ne va pas disparaître du jour au lendemain dans notre esprit parce qu'on peut le comprendre avec notre tête. Il faut absolument s'entraîner, et c'est cela la méditation, s'entraîner d'abord à calmer l'esprit. Et quand cet esprit est calme, alors le calme de l'esprit, c'est ce qu'on appelle shamatha en sanskrit et shiné en tibétain. Littéralement, shiné veut dire, shi veut dire pacifier, et né demeurer. Demeurer dans cette paix de l'esprit. Et ça, c'est l'étape première de la méditation. Par ce calme de l'esprit, nous allons pouvoir observer ensuite le fonctionnement de l'esprit et notamment observer le fonctionnement duel de l'esprit et voir, expérimenter petit à petit en quoi ce fonctionnement est basé, se base sur une non-réalité, mais sur une construction, et en quoi ce mode de fonctionnement, eh bien, cause de la souffrance pour soi-même et pour autrui. Alors, nous avons développé le mois dernier dukkha, mais il faut ce mois-ci observer ce fonctionnement de l'esprit. Alors, que dit Rinpoché? Parce qu'après, je vais trop loin, j'oublie ce que Rinpoché a développé dans ce texte. Hein. Donc, au sujet de l'interdépendance, cela ne signifie pas qu'une seule chose donne lieu à une autre. Cela signifie plutôt qu'il y a beaucoup d'influence sur chaque chose et que chaque chose en affecte à son tour beaucoup d'autres. Tout est produit comme conséquence de multiples causes de type varié. Et on peut même souligner que ne pas faire obstruction à quelque chose est encore une forme de cause. Une fleur, par exemple, est le résultat de multiples facteurs de croissance, et il convient de considérer non seulement tout ce qui favorise cette croissance, mais aussi tout ce qui ne l'empêche pas. En rencontrant une fleur, je suis aussi en quelque sorte l'une de ses causes, en ce sens que je ne la coupe pas et n'entrave pas sa croissance. Alors ensuite, il parle du karma, des deux sortes de karma, le karma de l'individu, ou le karma individuel, et le karma collectif. Alors, sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs, eh bien, on va agir par ce qu'on appelle les trois portes, par le corps, par la parole et par la pensée. Sous l'emprise de la colère, c'est clair, on sait tous comment, quels sont les actes que nous accomplissons. Quand vous observez le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, quand vous apprenez les nouvelles dont on nous abreuve toutes les 7 minutes, qu'il y a tel individu qui a causé, qui a liquidé je ne sais combien d'êtres autour de lui, etc., qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit? Eh bien, vous êtes sûr de trouver un des cinq facteurs perturbateurs. C'est-à-dire que ces facteurs perturbateurs, eh bien, c'est ce qui fait tourner le monde aujourd'hui. Et un être qui est dans le monde, dans ce qu'on appelle le samsara, n'est pas dépourvu de ces cinq facteurs perturbateurs. Nous les avons tous. Et puis il y en a d'autres. Mais observer ce qui se passe dans le monde et essayer, par l'analyse, par l'observation, de déceler quel est le facteur perturbateur qui s'est élevé dans l'esprit de cet individu et qui l'a poussé à agir de cette façon-là. Vous êtes sûr de tomber sur un des cinq. Donc, il n'y a pas de, dans le mode de fonctionnement de cette personne, il n'y a pas de différence fondamentale entre cette personne et nous. La différence se situe dans l'action que cela va entraîner. Mais dans le fonctionnement de l'esprit, on fonctionne tous comme ça. Donc nous sommes tous, comme dit souvent Rinpoché, des êtres samsariques. C'est-à-dire que nous agissons sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs. Nous avons tous de l'orgueil, nous avons tous de la jalousie, nous avons tous. Alors à des degrés différents, il y en a chez qui l'orgueil est très développé, chez d'autres moins. Il y en a, c'est le désir qui est très développé, il y en a d'autres, c'est la colère, l'aversion, etc. Mais nous fonctionnons comme ça. Et ça, nous devons étudier ce mode de fonctionnement dans notre façon d'être quotidien, dans notre oui, vie de tous les jours. Observons ce qui nous pousse à agir. Parce que quand on agit sous cette emprise de l'ignorance, eh bien, nous produisons donc un acte, que ce soit par le corps, ou par la parole, ou seulement par la pensée. C'est souvent par les trois en même temps, hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. Eh bien, d'après la loi de causalité, cet acte-là, qui est automatique, cause de dukkha, va engendrer un effet qui sera cause de dukkha, puisque l'effet est de même nature que la cause. Alors c'est pourquoi le Dalai Lama, par exemple, dit, mais si vous voulez changer le monde, mais commencez par vous changer vous-même, quoi. Parce que, évidemment, qu'on peut transformer des circonstances, des situations, pour essayer d'améliorer la circonstance et la situation. Ça, d'accord. C'est ce qu'on pourrait dire, la bodhicitta, hein, l'esprit d'éveil, la motivation relative. Et tout pratiquant doit s'efforcer d'améliorer eh bien, son mode de vie, sa façon d'être, sa façon de penser, sa relation avec autrui, etc. Mais comment peut-on aller jusqu'au bout de cette transformation si nous ne nous intéressons pas à ce qui se passe dans notre esprit, et notamment à nos facteurs perturbateurs. Si nous ne mettons pas un terme à notre colère, vous savez, même si on décide là tout de suite, ok, je ne me mets plus en colère, si tout à l'heure je sors d'ici puis que je vois qu'il n'y a plus que trois roues à ma voiture, vous savez, ma détermination à ne plus me mettre en colère, ça risque de voler en éclats. Parce qu'il se passe à ce moment-là dans l'esprit un facteur perturbateur qui est puissant, qui est violent et que je ne peux pas contrôler. Et à ce moment-là, eh bien, je vais répondre à la situation sous l'emprise de la colère. Ça ne veut pas dire que si je ne suis pas en colère, je ne vais pas répondre à la situation, hein. Le karma ne veut pas dire être passif et tout accepter. Alors ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre parce que aujourd'hui, c'est assez mal compris. Non seulement ici, mais aussi en Asie. En Inde particulièrement, il y a une espèce de fatalisme face à ce qui vous tombe sur le coin de la figure. Les Indiens vous disent, bah oui, c'est mon karma, quoi. Ah bah, je suis malade, c'est mon karma, what to do, what to do. Eh bah, ben, what to do, c'est mon karma aussi de me soigner, quoi. Si j'ai les conditions de me soigner, eh bien, c'est le karma, c'est mon karma aussi, eh bien, de trouver ces conditions qui vont me permettre de me soigner. Cela veut dire que le karma, eh bien, n'est pas quelque chose de définitif. Il peut se transformer aussi. C'est un phénomène comme les autres phénomènes et il a un commencement, il a une durée, il a une fin, mais il y a aussi la possibilité de le transformer. Et ça n'a rien à voir avec cette passivité à laquelle on assiste souvent en Inde. Donc voilà, le karma n'est pas statique. C'est une idée fausse. Il est, que de le considérer comme statique, il est mouvant et dynamique. Il est vrai que ce que je suis maintenant est le fruit de mes actions passées. Tout ce que j'ai accompli dans mes vies passées, tout ce que j'ai fait dans cette vie depuis son début, même jusqu'à aujourd'hui, tout cela a produit ce que je suis maintenant. On appelle cela les agrégats de la pleine maturation. Je suis le fruit de mes actions. Le résultat est déjà advenu, mais la façon dont il va se développer dans le futur n'est pas prédéterminée. Voilà. Ce que je fais à partir de maintenant est entre mes propres mains. Le karma ne signifie donc pas qu'on ne puisse rien faire. Le karma est vraiment dynamique. À chaque instant, un nouveau karma est créé. Par conséquent, tout change sans cesse. Donc il faut bien voir, bien comprendre que dans l'instant présent, ça change à cette vitesse-là. Et chaque chose change à cette vitesse-là. C'est donc une succession d'instants de karma, une succession d'instants. Et cette succession donne une impression de continuité. Mais ce n'est qu'une impression. Cette impression de continuité, eh bien, ne correspond pas à la réalité. La réalité est que chaque instant, il y a quelque chose de nouveau qui se produit. Mais ce qui se produit pour être dans l'instant dépend de ce qu'était l'instant précédent. Donc l'instant présent n'est pas totalement différent de ce qu'était l'instant précédent, mais il n'est pas non plus identique. Et l'instant présent va conditionner l'instant suivant. Donc l'instant suivant va ressembler, va beaucoup ressembler à l'instant présent, mais il ne sera pas identique. Et si vous regardez les photos d'il y a 20 ans, on voit bien qu'il s'est passé quand même quelque chose d'instant en instant. Hein. S'il y avait quelque chose de permanent, d'unique et autonome, eh bien, il n'y aurait pas ce changement perpétuel. Donc ce changement, je crois qu'on en a parlé le mois dernier, hein, dans le bouddhisme, c'est l'autre notion dont on parle tout le temps, c'est l'impermanence de toute chose, le changement absolument de toute chose. Et c'est bien parce que tout se modifie d'instant en instant, c'est bien parce que tout existe par interdépendance de multiples choses, qu'on ne découvre pas une entité unique, autonome et permanente, à la fois chez les individus et à la fois dans les phénomènes. Alors Rinpoche explique que le karma mûrit de quatre façons. Le karma le plus puissant est une cause produisant un résultat immédiat, expérimenté en cette vie même. Le second est une cause produisant un effet expérimenté dans la prochaine vie. Le troisième produira un résultat à un moment incertain, et la quatrième est indéfinie dans le sens qu'il pourra ou non produire un fruit. C'est-à-dire que pour que le karma à l'état de potentialité donne le fruit correspondant, il faut que cette potentialité rencontre des conditions lui permettant de donner le fruit. Alors, on prend toujours cet exemple du grain de blé ou du grain de riz. Il y a cette potentialité dans le grain de blé d'un épi de blé, mais faut-il encore qu'il y ait des conditions qui permettent à cette potentialité de donner un épi de blé. Parce que si vous laissez le grain de blé là-dessus, au bout d'un an, la potentialité sera toujours là et il n'aura pas donné le fruit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les conditions qui vont lui permettre de donner le fruit. Et ces conditions, eh bien, ce n'est pas évident de les rencontrer ou qu'elles soient présentes là, dans l'immédiat, voire dans quelques années. Et c'est pourquoi dans cette loi de causalité, il nous est si difficile de voir le lien qui existe entre la cause et l'effet. Parce que la cause a pu être produite eh bien, dans un temps très passé, et voire même dans une vie passée, comme le prétend le Dharma. Ce karma qui est encore à l'état potentiel peut être totalement purifié. Donc il n'y a pas de karma, d'actes négatifs qu'on a accomplis, etc., qui peuvent être vus comme un acte non purifiable. Tout peut être purifié dans le bouddhisme, hein. Même la pire des horreurs qu'on a accomplies, quoi. Bon, ça c'est... Mais faut-il, pour que ce soit purifié, que le karma soit encore à l'état potentiel ? Quand le karma donne le fruit, parce qu'il rencontre les conditions le lui permettant, eh bien, c'est ce qu'on appelle un karma arrivé à maturité. Si vous êtes malade, eh bien, vous ne pouvez plus vous empêcher d'être malade. Par contre, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir le karma de vous soigner, hein, et de bien vous soigner. Mais un karma qui arrive à maturité, eh bien, vous ne pouvez plus l'empêcher. Donc, c'est pour ça que dans la pratique du dharma, eh bien, on va parler de purification des voiles, de purification de ce voile qu'est le karma. Et quand on parle des voiles, eh bien, on évoque quatre voiles qui nous empêchent de faire cette expérience de la nature, ce qu'on appelle la reconnaissance de la nature de l'esprit. C'est le voile du karma, ça c'en est un. Mais c'est le voile aussi de la dualité, puisque c'est dans cette dualité que le karma est accompli, sous l'effet du voile des facteurs perturbateurs, voilà, comme on a vu tout à l'heure. Et le quatrième voile, c'est le voile. Attendez. Voile, facteur perturbateur, voile du karma, le voile de la dualité et le voile. Ben non.
Les tendances.
Comment? Les tendances, voilà, merci. Le voile des tendances, c'est-à-dire les habitudes que nous avons prises par notre mode de fonctionnement, eh bien d'agir toujours de la même façon. On dit que ce voile des tendances, eh bien, c'est le plus subtil, sans doute pourquoi je m'en souvenais pas, mais on dit que c'est le voile le plus subtil. Et le précédent Kalon Rinpoché disait que ce voile, c'est un peu comme si vous trouviez dans un grenier une feuille de papier jaunie, pliée depuis des dizaines d'années, et que vous le dépliez, même si vous le repassez bien, il y a toujours une marque, quoi. Hein? Eh bien, le voile des tendances, c'est un petit peu ça. C'est vraiment. Les textes expliquent que c'est le dernier voile qui est purifié. C'est vraiment. Ce voile des tendances, c'est donc les habitudes. Quand par une conscience, j'entre en contact avec un objet, à partir de la sensation que ce contact fait naître dans mon esprit, j'ai toujours tendance à réagir de telle ou telle façon. Pardon?
C'est le fameux naturel qui
Le
revient.
quoi?
Le fameux naturel.
Si vous voulez,
Qui
oui, vous
revient en
pouvez peut-être
galop tout le temps,
l'appeler comme
naturel.
ça. Voilà, c'est cette façon instinctive presque hein, de réagir. Et c'est tellement fort que eh bien, la purification de ce voile est difficile. La purification du voile des facteurs perturbateurs, c'est quelle pratique qui va la permettre? Les anciens, là. Chiné. La pratique qu'on a faite tout à l'heure, par le fait de prendre conscience des phénomènes qui s'élèvent dans notre esprit et de les laisser passer. C'est le fait de les laisser passer qui va purifier ces facteurs perturbateurs. Les purifier, c'est-à-dire, eh bien, que si on ne s'agrippe pas à ces phénomènes, à ces facteurs perturbateurs, si on les laisse passer, ils vont perdre petit à petit de leur violence, de leur puissance. Et c'est comme cela qu'avec les années de pratique, il y aura moins de colère, il y aura moins d'orgueil, il y aura moins de jalousie, etc. C'est ça la purification. Il ne faut pas voir la purification comme quelque chose qui va se dissiper en un instant sous forme de miracle. Ah, oh, je n'ai plus de colère, je n'ai plus de ci, je n'ai plus de jalousie. Voilà. Ces quatre voiles, eh bien, ils s'entretiennent les uns les autres. Le voile de la dualité va entraîner le voile des facteurs perturbateurs, sous l'emprise duquel eh bien, on va accomplir des actes négatifs, donc créer du karma négatif. Mais le fait d'agir comme ça et de créer du karma négatif, ça va encore favoriser le voile des tendances, etc. Donc c'est un peu un cercle hein, qui se mord la queue et on est toujours en train de passer eh bien, dans un de ces quatre voiles, quoi. Mais le plus grossier, c'est le voile des facteurs perturbateurs. Alors c'est intéressant de savoir que ce voile-là, c'est le plus grossier. Parce qu'on voit où on en est dans la purification de nos voiles, quoi. Comment on se laisse encore embarquer par notre colère, notre jalousie, notre orgueil, notre indifférence, etc. Alors je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire pour les autres voiles qui sont plus subtils. Voilà. D'où l'importance de la pratique, hein. Et ça, faut vraiment insister là-dessus. Mais vous savez que je ne crois pas beaucoup au miracle et que si l'on veut modifier notre fonctionnement de l'esprit, nous sommes obligés de nous asseoir sur notre coussin, que cela nous plaise ou pas, quoi. Après, ça, c'est à nous de voir si on a la motivation, eh bien, de transformer ce mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement ne peut pas, à mon avis, être transformé si l'on ne comprend pas par l'observation, par la conscience de la souffrance que ça engendre, à la fois pour soi-même et pour autrui. Et là, on touche l'origine de la souffrance. Il faut, en tant que bouddhiste, cesser de mettre la responsabilité de notre souffrance sur autrui, quoi. Sur l'autre qui n'agit pas comme on voudrait que. Il agisse sur les circonstances, sur la politique, sur le temps, sur l'économie, sur ci, sur ça, etc. Or, quand vous écoutez une conversation sur, en gros, l'état du monde aujourd'hui, c'est toujours la faute de l'autre. Il n'y a jamais quelqu'un qui se dit, mais attends, si ça va mal aujourd'hui, si je ne vais pas bien, si je ressens dukkha, j'expérimente dukkha aujourd'hui, mais qu'est-ce qui, dans mon fonctionnement, produit cela? Les Tibétains, hein, les anciens, vous le savez, mais les Tibétains, c'est très clair pour eux, puisque dans leur langue, bouddhiste se dit Nangpa. Nang, ça veut dire à l'intérieur, dedans. Un bouddhiste, c'est celui qui voit la cause de sa souffrance à l'intérieur de lui-même. On ne nie pas que les circonstances peuvent être cause aussi de souffrance. Mais c'est ma façon de réagir par rapport aux circonstances, eh bien, qui est véritablement la cause primordiale de dukkha que je peux expérimenter. Et tant qu'on ne comprend pas cela, on imagine que la cause est toujours à l'extérieur de nous, mais on imagine aussi que quelqu'un qui a réalisé l'éveil, c'est quelqu'un, eh bien, qui ne ressent plus rien, qui ne rencontre pas les difficultés que l'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne. Le Dalai Lama, il ne ressent plus rien s'il se coupe le doigt, quoi. Il ne ressent plus rien si quelqu'un l'insulte ou si son avion a 3 heures de retard ou si ça est annulé, etc. Il y a des personnes qui pensent que, eh bien, voilà, le Dalai Lama, pour parler de lui, eh bien, c'est quelqu'un qui est devenu anesthésié, comme je dis souvent, un légume anesthésié, et qui ne ressent plus rien, quoi. Eh bien, c'est faux. À Bâle, le Dalai Lama, quelqu'un lui a demandé s'il ressentait encore de la colère. Il a dit oui, de temps en temps, oui. Seulement, la différence entre lui et nous, c'est sa réaction à ce phénomène quand ce phénomène s'élève dans son esprit. Ce qui veut dire, et les anciens, vous allez dire que je radote, mais je parle toujours de la même chose, mais ce qui veut dire que la cause première, la cause fondamentale de dukkha, c'est notre façon de réagir par rapport à ce qui se passe dans notre esprit. Et si j'ai de la colère qui s'élève dans mon esprit, il y a une légitimité à ce que ce phénomène apparaisse. Arrêtez de condamner la colère. Arrêtez de condamner votre désir, votre attachement, etc. Voyez ces phénomènes-là, eh bien, comme légitimes, comme ayant leur raison d'apparaître. Par contre, sur quoi on nous demande de travailler par la méditation, c'est comment je réagis par le fait d'avoir la présence de ces facteurs perturbateurs dans mon esprit. Et c'est là où la liberté m'appartient. Je suis libre de me laisser emporter par ces facteurs perturbateurs ou de prendre de la distance, de laisser passer ce facteur perturbateur et de répondre à la situation telle que je dois y répondre, mais en n'étant pas sous l'emprise de tel ou tel facteur perturbateur. Et la véritable libération, eh bien, c'est ça, c'est une libération intérieure qui vient du fonctionnement de notre esprit. Et ça nous appartient. Dukkha, c'est notre esprit qui l'éprouve, qui l'expérimente. La libération de dukkha, c'est notre esprit qui l'éprouve et l'expérimente. Et ça, nous devons absolument être sûrs de cela. Alors, il faut faire cette observation intérieure Et dites-vous que lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a quelque chose qui vous dérange, que vous êtes en train d'expérimenter dukkha, au lieu de tout de suite voir ce qui ne va pas dans votre entourage, essayez de vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de saisir, de rendre solide? Quel est l'objet auquel je suis en train de m'agripper alors que je devrais laisser passer? Mais pour laisser passer cet objet, faut-il encore être conscient de sa présence? D'où l'importance de chiner. Donc quelqu'un qui dit, oh mais moi je médite dans l'action, et qui ne s'assoit jamais sur son coussin, pour moi c'est vraiment justifier sa paresse. On ne peut pas ne pas s'asseoir sur son coussin. Je sais très bien que la méditation assise, elle doit se prolonger dans l'activité, dans l'action. Mais quand vous êtes samedi après-midi en pleine grande surface ou dans votre boulot où il y a un stress pas possible, ben, ce n'est pas vraiment les conditions idéales pour établir la vigilance à ce moment-là dans votre esprit. La vigilance ne pourra s'établir dans ces circonstances-là que si vous vous êtes entraîné à l'établir dans votre esprit dans des conditions extrêmement favorables, de calme, de silence, de tranquillité. Donc, que ce soit chez vous, dans un centre du Dharma, mais dans des conditions extrêmement favorables. Ce n'est quand même pas pour rien que le Bouddha lui-même et tous les maîtres ensuite ont tant insisté et insistent tellement encore aujourd'hui sur le lieu où implanter des centres du Dharma, quoi. Il y a les conditions extérieures, eh bien, qui ont une certaine influence quand même sur notre pratique et sur notre esprit. Et à ce sujet, hein, je vous invite, Luce, c'est quand même pas très loin, quoi. Je fais le voyage tous les jours, il y a autant de kilomètres dans ce sens-là que dans l'autre, hein. Eh bien, vous pouvez très bien venir, quand vous avez un peu de vacances, venir passer ne serait-ce que 3-4 jours pour expérimenter un petit peu dans ce cadre où c'est vraiment silence, verdure, forêt, montagne, où il n'y a pas d'autres maisons. Et il y a certains jours, hein, comme je dis souvent, quand vous avez vu deux chevreuils, vous pouvez vous dire, bah tiens, j'ai vu du monde aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on est vraiment non pas isolé, mais quand même en retrait, c'est-à-dire dans un cadre totalement idyllique, je dirais, eh bien, pour observer son esprit. Et vous n'aurez rien d'autre à faire. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la cuisine, il y a quelqu'un qui s'occupera du ménage. Vous pouvez passer votre temps pendant la durée que vous souhaitez à observer votre esprit. C'est peut-être la première fois de votre vie où vous pourrez observer votre esprit à longueur de journée. Et ça sera bénéfique pour vous, ça sera bénéfique pour vos proches dès que vous les retrouverez, et ça sera bénéfique aussi dans votre activité dans laquelle vous vous retrouvez. Parce que cette vigilance, en 3 jours, ça sera un peu court pour qu'elle s'établisse vraiment, mais vous pourrez goûter quand même à ce que peut vous apporter cette vigilance qui s'installe peu à peu dans l'esprit. Il n'y a pas d'autre façon de faire, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Voilà. Voilà, ça je l'ai dit d'une autre façon, mais ça. Alors il explique que ces trois poisons, hein, le désir, attachement, la colère, la haine, aversion, et puis l'opacité mentale, ou ce qu'on appelle aussi l'indifférence, eh bien dans la roue du cycle de la vie, au centre, hein, si vous regardez une tanka tibétaine, une peinture tibétaine, eh bien vous voyez trois poissons, pardon, trois animaux au centre. Qui tourne en se mordant la queue. Ça veut dire qu'on passe d'un poison à l'autre. Alors le cochon représente l'ignorance. Bien que les cochons ne soient pas nécessairement plus stupides, dit Rinpoché, que les autres animaux. La comparaison tient au concept indien qui fait du cochon l'animal le plus bête parce qu'il dort toujours dans les endroits les plus sales et parce qu'il avale tout ce qui passe à portée de sa bouche. Hein? Rappelez-vous, les hindous, les hindouistes, ne mange jamais, jamais de cochon. C'est vraiment. Quand Rajesh est en France, il y a deux choses qu'il demande. C'est s'il y a du bœuf Est-ce qu'il y a du porc? Et les premières fois qu'il était ici, dans un restaurant où il y avait du bœuf, il sortait du restaurant. Pour lui, c'est... Mais c'est un sacrilège, hein, que de manger du bœuf. Mais par contre, manger du cochon, alors non, c'est vraiment pour... Il y a les intouchables qui en mangent. Voilà. Mais c'est pour vous dire que c'est très fort, hein, chez eux. Ensuite, le serpent est associé à la colère, parce qu'il s'éveille et jaillit d'un bond au moindre contact. Comme la colère peut être extrêmement prompte. Et puis, l'oiseau. Alors, ce n'est pas le coq en général, ce n'est pas le coq gaulois, hein, mais c'est un oiseau en général qui est le troisième animal. L'oiseau représente le désir et l'attachement. Dans les publications occidentales, on fait généralement référence à un coq, mais ce n'est pas tout à fait exact. Pour autant que je le sache, l'oiseau dont il s'agit n'existe pas dans les pays occidentaux. Celui-ci est utilisé comme symbole car il est très attaché à sa partenaire. Ces trois animaux représentent les trois principaux poisons de l'esprit qui sont au cœur de la roue de la vie. Tout le cycle des existences évolue à leur gré et sans eux, il n'y aurait pas ce qu'on appelle le samsara. Voilà. Samsara, c'est à la fois la roue de la vie, littéralement, mais c'est synonyme aussi des conséquences que cela entraîne par le fait d'agir sous l'emprise de ces trois poisons, eh bien, dukkha. Le samsara, la souffrance est... non-stop dans le samsara. Donc, Rinpoché poursuit en disant le samsara n'est donc pas un lieu, c'est un état d'esprit. Hein? C'est notre esprit. Là où ces trois poisons agissent, le samsara est présent. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois que l'on agit sous l'emprise d'un de ces trois poisons, le résultat sera d'engendrer dukkha, d'engendrer de la souffrance. Même si l'état, l'effet immédiat peut nous sembler apporter un bienfait. Mais l'effet en tant que karma, hein, eh bien, sera de même nature que cette cause qui est un de ces trois poisons. Cela explique pourquoi le Dalai Lama n'a jamais prôné la violence pour la situation actuelle au Tibet. Ce qui peut être mal compris, même par des Tibétains. Et il y a des Tibétains qui ne sont pas d'accord avec lui et qui eh bien, se disent, après tout, on pourrait peut-être poser quelques bombes au Tibet et ça ferait peut-être réagir autrement les Chinois. Eh bien, on ne peut pas, pour un effet positif, agir avec un acte négatif. Ça, c'est d'après la loi de causalité. Alors pour finir, même si nos actes sont bénéfiques, tant que nous sommes prisonniers de cet état d'esprit dominé par l'aversion et l'attachement basé sur l'ignorance, nous demeurons au sein du monde samsarique. Nous pouvons réduire notre souffrance et augmenter notre bonheur, mais nous ne pouvons pas dissiper toutes les causes de souffrance. La véritable cause de toutes nos souffrances est l'ignorance qui donne naissance à l'aversion et à l'attachement. Voilà. Donc, c'est pourquoi tout le dharma, eh bien, va mettre l'accent sur le déracinement de cette ignorance, ce qu'on appelle l'ignorance fondamentale ou la saisie égotique, vous appelez ça comme vous voulez, c'est toujours de la même chose dont il s'agit. Et un pratiquant bouddhiste doit se rappeler, eh bien, de cette finalité de la voie. Et il n'y a pas d'autre finalité à la voie bouddhiste. Je dis souvent, si vous cherchez Dieu, ne venez pas dans le bouddhisme le chercher, quoi. Aucun enseignement n'évoquera cette question. Fondamentalement, on peut dire que c'est une question qui n'intéresse pas vraiment les bouddhistes. Ce qui les intéresse, c'est nous souffrons, nous faisons souffrir. Personne ici n'a envie de souffrir. Comment mettre un terme à cela? En deux phrases, toute la voie bouddhiste est résumée. Avez-vous des questions? Ou des réflexions? Alors, oui?
Une question. Par exemple, pour prendre un cas extrême, une femme qui vit avec un mari violent, par exemple, elle le dénonce à la police. Et pour ça, donc, il va aller en prison. Donc il va y avoir de la souffrance. Si on prend un exemple mineur, par exemple, dans une réunion où quelqu'un vous crée des contraintes, etc., vous dites ce que vous pensez de son travail, et donc vous causez de la souffrance aussi. Et pour que ça change, il faut quand même parfois qu'il crée de la souffrance.
Mais
c'est là où je... Faire changer dans la douceur, c'est parfois... moi, j'y arrive pas. Hein.
Mais si vous êtes malade, si vous êtes malade, est-ce que le traitement est toujours homéopathique? Bon. Et pourquoi acceptez-vous ce traitement? Un traitement douloureux. Pourquoi vous l'acceptez alors que ce traitement va causer de la souffrance? Ben oui, c'est votre motivation, eh bien, de vous libérer de la souffrance, dans ce cas-là, de la maladie. C'est-à-dire que le moyen utilisé peut engendrer une souffrance temporaire, en tout cas. Mais quelle est la motivation qui va vous faire agir? C'est ça qui est très important dans la loi de causalité aussi. L'acte est toujours lié à la motivation avec laquelle on va agir. La motivation étant de se libérer de dukkha ou de la souffrance, le moyen utilisé mais peut provoquer de la souffrance, mais une souffrance temporaire. Vous savez, la pratique du dharma, c'est pas toujours parfaitement agréable, hein. Il y a des fois on en bave, quoi, et des fois on rencontre des obstacles. La transformation de notre esprit, c'est pas toujours facile, etc. Hein. Il y a des... Voilà. Mais c'est dans la motivation de se libérer. Si la circonstance demande un acte précis, par exemple dénoncer une personne à la police parce que il vous fait souffrir et qu'il n'a pas le droit de vous faire souffrir, etc., vous devez le faire. Mais vous ne devez pas le faire alors que votre esprit est soumis à l'aversion, par exemple, ou à la haine. Mais ne pas être soumis à un facteur perturbateur ne veut pas dire qu'on va devenir passif, angélique, j'en sais rien, enfin, je ne sais pas quel terme utiliser, mais stupide, naïf, etc. Il y a une expression et une attitude, quelquefois, hein, mais pour cela, il faut être bien entraîné, je dirais, mais qu'on appelle dans le bouddhisme, et notamment dans le bouddhisme tibétain, la compassion courroucée. Ben, la compassion courroucée, c'est si vous avez un gamin, vous n'allez pas le laisser faire tout ce qu'il a envie de faire. Et s'il ne comprend pas votre interdiction, par exemple, par la méthode douce, ben vous allez devoir être obligé d'utiliser la méthode ferme pour qu'il comprenne. Pourquoi vous allez utiliser cette méthode ferme? Non pas pour le faire souffrir, mais pour qu'il comprenne. Donc par amour et par protection. Même si le moyen utilisé, sur le moment, il ne va pas le comprendre, peut-être ne pas être d'accord et pâtir de ce moyen-là.
Mais parfois, j'ai l'impression que tout le monde est assez convaincu de sa bonne motivation, quoi. Ce qui fait qu'on arrive à des incompréhensions totales, parce que tout le monde est très convaincu qu'il veut le bien d'autrui, quoi.
Oui, mais alors ça c'est, bon, c'est ce que Rinpoche appelle aussi le comportement samsarique. C'est-à-dire que si l'on ne comprend pas le fonctionnement de notre esprit, on peut s'illusionner aussi par nos propres motivations et notre propre façon d'agir. Plus nous comprendrons le fonctionnement de notre esprit et comment remédier à ce fonctionnement-là, plus nous pourrons agir, comme il est dit dans l'octuple sentier, de façon juste. C'est-à-dire avoir un acte juste, c'est-à-dire qui répond à la situation de façon juste, mais en n'étant pas sous l'emprise de l'ignorance qui nous fait croire que la motivation était bonne alors qu'elle ne l'est pas forcément, etc. En même temps, on ne va pas cesser d'agir tant que nous n'avons pas réalisé l'éveil. Hein? C'est toujours ce qu'on appelle la bodhicitta relative et la bodhicitta ultime. Quoi. La bodhicitta, c'est cette activité, et bien, même si notre motivation n'est pas à 100% pure ou elle est encore fondée sur l'ignorance, il faut quand même développer l'amour, la compassion, la bienveillance et tout ce qu'on peut apporter de bienveillant à autrui, quoi. Cette bodhicitta ultime, c'est-à-dire ce déracinement de la saisie égotique, quelle est la pratique qui va le permettre? Les anciens, là? Comment?
Tonglen.
Pas du tout.
Non.
Tonglen, c'est un moyen, mais quelle est vraiment la pratique qui va cibler cette saisie égotique? Lak Tong. L'actong, la vue supérieure, ou la vision supérieure, ou la vue pénétrante, c'est-à-dire le fait de voir, comme dit Ajahn Chah, hein, ce maître thaïlandais qui disait beaucoup, de voir les choses telles qu'elles sont, et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, ou telles qu'on s'imagine qu'elles sont. Mais pour ça, il faut chiner, il faut le calme mental. Dans les programmes ALUS, c'est Mahamudra 1, Mahamudra 2 et Mahamudra 3. Il n'y en a pas plus, hein, il n'y en a pas 5, 6, 7. Mahamudra 3, c'est comment unir Shiné et Lactang. C'est ce qu'on appelle le Mahamudra, qui est un synonyme de l'éveil dans notre lignée. Voilà. Alors essayez pendant ce mois, eh bien, à chaque fois que vous ressentez Dukkha, de vous dire, bon, qu'est-ce que je suis en train de saisir? Quel est le fonctionnement de mon esprit? Eh bien, qui fait que je suis en train d'expérimenter Dukkha. De façon à travailler sur cette tendance qui nous consiste à toujours porter la responsabilité sur ce qui ne va pas en moi, chez les autres, etc. Et puis alors j'ai une info, parce que vous faites tous une tête là, un peu triste tout net, je trouve. Mais bon, alors j'ai une très bonne info à vous annoncer, c'est que le Dalai Lama sera présent à Strasbourg en septembre l'année prochaine, les 16, 17 et 18 septembre. Donc ça, vous pouvez bloquer ces 3 jours. Hein. Et j'ai eu Rinpoche en ligne aujourd'hui, Ringo Rinpoche, qui dit qu'il faut absolument qu'on soit membre organisateur, et lui-même sera là pour ces 3 jours en septembre. Et il voulait tout de suite savoir les dates quand je lui ai dit ça, et il m'a dit, mais quelles sont les dates? Donc je suis descendu au secrétariat, et parce qu'il fait déjà son planning pour la fin 2016. Et donc ça, il sera présent à Strasbourg. Si je vous dis ça, c'est pas simplement pour que vous bloquiez ces 3 jours, c'est pour aussi vous dire qu'on aura besoin de vous, hein, parce que c'est une très grosse organisation. Ça se fera au Zénith à Strasbourg, il y a 9000 et quelques places, hein, et un an, c'est déjà assez court pour tout organiser. Alors c'est pas nous qui organisons, c'est la FBT, la Fédération du Bouddhisme Tibétain. Il y a déjà, je crois, une dizaine de centres en France qui sont organisateurs, donc nous on se rajoute. Il y aura que Tolsheim aussi, je crois, voilà. Et par contre, ils ont toute une équipe qui, depuis des années, organise la venue du Dalai Lama en France et qui est bien rodée, quoi. Hein. Nous, ça sera plus des bénévoles pour... j'en sais encore rien de façon précise, mais on aura besoin vraiment de bénévoles. À Paris, il paraît que vraiment, Strasbourg, c'est un trou, quoi. Ah, mais vraiment, il parlait de Strasbourg, paraît-il, en disant, mais Il y aura assez de monde pour remplir 9000 personnes. Il y aura les Allemands, il y aura des Suisses, il y aura beaucoup de Français. Ça vient de partout quand le Dalai Lama vient. Enfin, voilà.
C'est quand, pardon, vous avez dit 16, 17?
16, 17 et 18 septembre. Voilà. En espérant qu'il ne sera pas malade, parce qu'il faut savoir aussi que le Dalai Lama aura 81 ans, quoi. Donc il commence à fatiguer. Voilà, rien d'autre? Vous êtes peu bavard ce soir, hein? Alors s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien on va faire la dédicace.
J'ai une autre
Dites-moi.
question. Est-ce qu'on peut venir à Luce en semaine
Mais en semaine, mais bien sûr.
D'accord.
Mais c'est là où c'est le plus calme.
D'accord.
Oui, non, c'est très bien de venir en semaine parce que bah, y a peu de monde. Hein, on est trois à vivre à Luce, hein, dans 700 mètres
Avec un
carrés.
chat maintenant.
Pardon?
Avec un
Avec un
chat.
chat, il est vrai. Voilà. Mais non, la semaine, et si vous venez la semaine, vous pouvez très bien vous joindre à nos trois méditations quotidiennes, mais il n'y a rien d'obligatoire. Si vous préférez faire toute la journée votre pratique dans votre chambre et rester dans votre chambre, vous le pouvez. Je rappelle que les deux dernières chambres viennent d'être terminées, donc toutes les chambres maintenant, pour ce genre de séjour, sont avec douche et sanitaire dans chaque chambre. Hein. Et vous pouvez aussi profiter bah, du lieu, d'aller vous détendre, marcher, etc. Vous pouvez prendre les repas avec nous. Si vous préférez être seul et dans le silence, vous pouvez, avec un plateau, descendre chercher votre repas et remonter dans votre chambre le manger. Enfin, voilà, c'est à la carte. Vous faites ce qui est le mieux pour vous, quoi. Ce n'est pas réservé non plus aux bouddhistes, hein. Les non-bouddhistes peuvent venir aussi y séjourner. Voilà, si vous avez besoin de calme, vous pouvez discuter avec moi, vous pouvez ne pas me voir si vous n'avez pas envie de me voir. Il n'y a rien d'obligé. Enfin voilà, vous vivez ce qui est le mieux pour vous, quoi. Hein? Et je tiens vraiment à ce que ce soit comme ça, quoi. Et Nancy Luce, c'est 1h05, 1h10, voilà, maximum, quoi. 1h15, vous êtes vosgienne? Non? Bon. Voilà. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion de sol, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous.
Merci.